En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors, nous en sommes à la question 27, mais qu'on va sur laquelle on ne va pas s'attarder, parce que c'est décrivez le symbolisme de Chenrezig. Donc, si vous voulez manger avant 10h ce soir, on va passer la question. Pareil, quel est le sens du mot Chenrezig ? On verra ça quand on sera plutôt dans ce genre de pratique. Par contre, la question 29. Quelles sont les différentes catégories des préliminaires et détailler chacune d'entre elles ? Alors, je crois que ça, vous avez... matière à répondre, non? Bonsoir. Qui veut se lancer là? Quelles sont les pratiques préliminaires?
On s'attendait à répondre pour Chenrezig.
C'est toujours comme ça dans le Dharma. Les prosternes. On voit qu'il y en a qui ont été traumatisés. D'abord, il y a les... Bonsoir, Georges, c'est ça?
Oui.
Très bien. Non, d'abord, il y a ce qu'on appelle les préliminaires communes et les préliminaires spécifiques. Les préliminaires communes parce qu'elles sont communes à plusieurs traditions spirituelles et pas forcément au Vajrayana. Alors, quelles sont-elles? Elles sont quatre. C'est quatre réflexions. Oui, voilà. Hein, la précieuse existence humaine, l'ensemble des conditions nécessaires à la pratique du Dharma. Ensuite, l'impermanence, la réflexion sur l'impermanence de toute chose. Ensuite, la loi de causalité, la loi du karma. Réfléchir sur ça. C'est quatre réflexions en fait, hein. Et puis la quatrième, sur la nature du samsara. C'est-à-dire, en fait, sur le fonctionnement de notre esprit confus. Voilà. Et ça, ce sont ces quatre idées qu'on dit fondamentales, parce qu'elles forment le fondement de notre pratique. En tibétain, on les appelle l'odonamchi, littéralement les quatre pensées qui tournent l'esprit, sous-entendu vers le dharma. Donc c'est très important et tous les Rinpoché insistent sur ce genre de sur ces quatre réflexions comme devant être quotidiennes. Voilà, donc la précieuse existence humaine, l'impermanence et la mort, la loi de causalité et la défectuosité du samsara, la nature défectueuse du samsara. Ensuite vous avez les quatre préliminaires spécifiques qui sont donc spécifiques au Vajrayana. Alors, qui sont le refuge et la bodhicitta. Et bien sûr que pour le refuge, pour manifester le refuge, donc là, on le manifeste par le corps, par des grandes prosternations. Voilà. Mais c'est le refuge et la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Ensuite, c'est la pratique de Vajrasattva, qui va être une pratique de purification. Et en fait, Vajrasattva, c'est une pratique de purification plutôt sur la saisie que l'on développe par rapport à la souffrance. Ensuite, vous avez l'offrande du mandala. Alors, le mandala, c'est... un mandala, c'est le symbole de l'univers. Et là, on va offrir des univers et des univers de mandala. Et dans cette offrande, eh bien, c'est la purification de la saisie par rapport à tout ce qui nous est agréable, tous les plaisirs, nos formes d'attachement, etc. Donc c'est pour ça qu'on offre aux trois joyaux et on offre à tous les êtres des univers de mandala, des univers de tout ce que nous aimons. Si vous êtes attaché à votre collier de perles, eh bien vous offrez des univers de perles, des univers de voitures, des univers d'ordinateurs, de tout ce que vous voulez, etc. Alors il y a un symbolisme, le symbolisme date, hein, la précieuse reine, le précieux ministre, le précieux général, le précieux cheval, etc. Tout ça, c'est du symbole, mais on doit ensuite adapter un petit peu à ce à quoi nous sommes attachés, et alors on pense qu'on l'offre sans comment, sans limitation, quoi. Ensuite, il y a la dernière, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Guru Yoga, c'est-à-dire unir notre esprit à l'esprit du Lama Racine, c'est-à-dire de celui qui représente pour nous le Bouddha de notre époque. Donc vraiment le maître avec qui on a une relation très, très forte, mais fondamentalement c'est être en union avec notre nature de Bouddha. Hein, parce que celui qu'on considère comme notre Lama Racine, eh bien, c'est celui qui nous montre en fait notre véritable nature de Bouddha. Voilà. Donc, ces quatre préliminaires. Bonsoir. Bonsoir, pas de problème. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les quatre préliminaires spécifiques. Et c'est ce qui marque, en fait, l'entrée vraiment dans le Vajrayana. Hein? C'est pratique, on dit préliminaire. Bien. Oh, alors ça va être une question... peut-être pour les anciens. Quelle est la classification des tantras selon l'école nouvelle qu'on appelle l'école Serma? Serma en tibétain veut dire nouvelle. Alors, vous savez que les tantras, ces enseignements non publics que le Bouddha a donnés, sont classifiés et... Ben oui, là je me fais un nœud pour ne pas donner la réponse. Dans l'école nouvelle, c'est l'école Kagyupa, la nôtre, l'école Tsakyapa et l'école Gelugpa. Voilà, ces trois écoles tibétaines classent les tantras en combien de catégories? Qui a une idée? Comment?
Quatre.
Quatre, ouais, c'est juste. Quatre, voilà. Et par contre, l'école ancienne, les Nyingmapa, eh bien, classent les tantras en 9 catégories. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de différence selon les tantras, c'est juste la classification. Voilà. Donc la réponse 31, eh bien, on y a répondu. Comment l'école ancienne Nyingma classe-t-elle les tantras en 9? Alors ça, on va passer la 32. Hein. Quelles sont les différentes phases d'une initiation? On verra ça quand... vous recevrez une initiation, et bien à ce moment-là, on détaillera les différentes phases. Par contre, quelles sont les trois caractéristiques d'une voie initiatique ou d'une voie ésotérique comme le Vajrayana? Qu'est-ce qui caractérise le Vajrayana?
La transmission.
Comment?
La façon dont on transmet.
Oui, c'est-à-dire
justement, c'est ça, l'initiation. De mettre
l'initiation. C'est la transmission, elle est... précisé dans la question. Vous avez le mot dans la question.
Initiation.
Eh oui. La transmission se fait par initiation. Donc, c'est pourquoi on appelle cette voie une voie initiatique. Et dans toute voie initiatique, la transmission se fait donc par initiation. Et vous avez deux autres caractéristiques qu'on retrouve dans toute voie initiatique. Le langage. Quel est le langage d'une voie initiatique comme le Vajrayana? Pardon?
Mantra.
Non. Le symbolisme. Le symbolisme. Ça, c'est le langage de toute voie initiatique. Donc, transmission par initiation, et ensuite, le symbolisme est vraiment le moyen par lequel on va travailler sur l'esprit. Et... si vous allez dans un temple tibétain, vous voyez bien que tout est symbole au niveau des couleurs... Il n'y a pas un centimètre, hein, quand on va en Inde par exemple, on voit dans les temples, il n'y a pas un centimètre qui ne soit pas recouvert de symboles, de couleurs, etc. Parce que tout a un sens, tout a une signification. Si vous allez dans un dojo zen, où le zen n'est pas initiatique, c'est complètement dépouillé. Donc c'est un autre moyen qui va être utilisé. Et c'est pourquoi par exemple à Strasbourg, depuis 10 ans, et ce week-end là qui arrive, ça va être la 10e fête du Bouddha à Strasbourg. Et la fête du Bouddha à Strasbourg, en fait, a été mise en place par 5 centre bouddhiste présent à Strasbourg, dont nous, et pour montrer aux gens que malgré toutes les différences qu'on peut voir dans notre façon, la couleur de nos habits, dans la façon de méditer, etc., nous sommes tous disciples du même Bouddha et donc du même enseignement. Nous suivons tous le même enseignement. C'est simplement dans les moyens que l'on va utiliser hein, que se situent toutes ces différences. Et dans le Vajrayana, eh bien, on va utiliser les symboles. Toutes ces déités que vous voyez, ce ne sont pas des déités, hein, ça on en a parlé l'autre jour, ce ne sont pas des déités que l'on prie, etc. Ce sont des symboles de méditation qui n'existent absolument pas chez les Laotiens, chez les Cambodgiens, dans le bouddhisme zen, etc. Ça, c'est vraiment propre au Vajrayana. Maintenant, tous ces symboles, ils doivent être actifs. On doit les rendre actifs, on doit les utiliser de façon active. Comment les utilise-t-on ? Par la troisième caractéristique d'une voie initiatique, c'est-à-dire le rituel. C'est tout ritualisé dans le Vajrayana pour vivre de façon active ou pour mettre en œuvre ou mettre en action ces différents symboles. Voilà. Donc, il y a la méditation silencieuse comme dans les sutras, ce qu'on fait en général quand on se rencontre, mais le Vajrayana est quand même spécialiste des rituels. Eh bien, c'est pour mettre en action l'ensemble des symboles. Voilà. Donc ça, hein, initiation, symbolisme et rituel, ça c'est le propre de toute voie initiatique, de toute voie ésotérique dans le sens correct ou pur, je dirais, du terme ésotérique. Que veut dire ésotérique par rapport à exotérique?
Intérieur.
Oui, c'est voilà, intérieur. Alors que l'exotérisme est la voie qui s'applique à tout le monde, à l'extérieur. Voilà. Et vous avez dans la plupart des traditions, vous avez un aspect exotérique et un aspect ésotérique. L'islam, par exemple, c'est l'aspect exotérique. Le soufisme est l'aspect ésotérique de l'islam. Et on voit que les règles qui s'appliquent dans l'exotérisme ne s'appliquent plus dans l'ésotérisme. Les femmes, par exemple, sont égales des hommes dans le soufisme, hein, par exemple. Dans le judaïsme tel qu'on le voit à la synagogue, etc., ça, c'est l'exotérisme. La Kabbale, c'est l'ésotérisme du judaïsme. Eh bien, dans le bouddhisme, les sutras, le Vinaya, les règles monastiques, les préceptes des fidèles laïcs, etc., ça, c'est l'exotérisme. Et c'est présent dans toutes les écoles. Et le Vajrayana, c'est l'ésotérisme du bouddhisme. En général, l'ésotérisme n'est pas enseigné de façon publique. Il faut déjà faire partie de l'exotérisme pour ensuite entrer dans une dimension plus intérieure qui est l'ésotérisme. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec les boutiques ésotériques, hein, où vous trouvez les pendules et autre chose, quoi. Hein, c'est, le mot a été un petit peu galvaudé avec le temps. Pas de questions, ça va? Oui.
La nage papillon, on la brasse. Quand je nage un peu dans tous ces termes, je ne suis qu'une.
C'est-à-dire? Ouais, dites-moi.
Donc, tous ces mots, ça, j'arrive pas bien.
Il faut lire par exemple. Alors, il faudrait lire par exemple. Est-ce que vous l'avez là? Le livre de Kalo Rinpoche sur le bouddhisme ésotérique, justement. Il explique un petit peu comment fonctionne le Vajrayana. Mais je ne sais pas si vous l'avez là dans la bibliothèque. Non? Il y a quelques livres là derrière vous. Ouais. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'elle pourrait lire là-dessus, hein? Il y a le bouddhisme tantrique du Tibet aux éditions Point Sagesse de John Blofeld.
C'est pour débutants.
Oui.
C'est pour débutants. C'est juste du
bouddhisme. Oui, mais ça c'est pas propre à l'ésotérisme.
Non, mais c'est
oui.
Un début.
Oui.
Prendre tous les termes.
Un glossaire, quoi.
Mais oui, il y a ce livre-là commenté par Rinpoche, et si vous m'expliquez le bouddhisme. Bon, voilà, ça c'est très bien, parce que ça donne vraiment toutes les bases de la voie, hein, sur quoi le bouddhisme se base, et puis quel est le cheminement. Quoi, hein. Mais si vous voulez quelque chose de plus spécifique au Vajrayana, au bouddhisme tibétain, hein, comment fonctionne le bouddhisme tibétain, là, il y a ces deux ouvrages que je citais. Là. Bon, il y en a peut-être d'autres. Alors, quelle est la 35, question 35, quelle est la relation des 5 Dhyani Buddha? Non, pardon, 34 d'abord. Citez les 5 Dhyani Buddha, leur couleur et ce qu'ils représentent. Bon, ça, vous savez ça. Bon. Alors, que représentent d'abord les 5 Dhyani Buddha? C'est ce qu'on appelle les Bouddhas des 5 familles. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces 5 Bouddhas? Ce sont des Bouddhas historiques? Vous êtes sûr que ce n'est pas le Bouddha Amitabha qui a enseigné le sutra d'Amitabha ou le sutra du lotus? Vous êtes sûr de ça? Non, ce ne sont pas des Bouddhas historiques. Hein. On parle des 5 Bouddhas parce que le mot Bouddha veut dire sagesse. Donc on pourrait dire que les 5 Dhyani Buddha, ce sont les 5 sagesses. Que représentent ces 5 sagesses?
Un petit poison. Chobia, par exemple, c'est
l'opacité mentale
qui est transformée en...
Pas du tout,
Chobia. Ah non, Chobia.
C'est
non.
Les 4 éléments.
L'inversité, c'est l'activité éveillée.
Et
c'est la transmutation de la jalousie.
L'impureté,
Alors pourquoi vous transmutez la jalousie? Pourquoi vous transmutez des facteurs perturbateurs?
Donc c'est transformé en qualité éveillée.
Pourquoi ça?
Par l'ésotérisme.
Hein? Par l'ésotérisme. Ça, c'est une belle pirouette.
C'est les bouddhas purificateurs.
Par exemple, Amitabha, c'est l'attachement dans la Vajrayana, c'est l'attachement à la passion. Et après, quand ça devient sur un plan spirituel, ça devient un amour comme on sera pour tous les êtres. Ça devient.
Mais ça le devient ou ça l'a. Ça, parce que ça ne l'était pas avant de le devenir. Ah ah. Allez, qui répond à ça? Qui aide Michel?
Parce que nos facteurs perturbateurs sont de la même nature que notre esprit, qui est lui-même sagesse.
Ouais. Ouais. C'est reconnaître en fait. C'est reconnaître la nature fondamentale des 5 facteurs perturbateurs principaux. Ils sont perturbateurs, ils deviennent perturbateurs, si vous voulez, parce qu'on ne reconnaît pas leur nature fondamentale. Et donc, c'est à cause de cette ignorance, le fait de ne pas reconnaître leur nature fondamentale, que la jalousie devient un problème, que la colère devient un problème, que l'orgueil, le désir attachement et l'indifférence deviennent un problème. Mais ce problème est dû à la non-reconnaissance, à l'ignorance. En fait, ils n'ont jamais été un problème. Ils s'élèvent dans l'esprit, ils demeurent dans l'esprit le temps qu'ils demeurent, et ils disparaissent dans l'esprit. Donc c'est en fait un mouvement ou une dynamique de l'esprit. Donc en fait, en essence, ils ne sont pas un problème. Ils ne sont pas négatifs en essence. Ils deviennent négatifs parce qu'on ne reconnaît pas cette nature-là. Cette nature de leur nature de sagesse. Donc en fait, quand on parle des Dhyani Buddha, eh bien, ce sont des pratiques qui vont consister par lesquelles on s'efforce à reconnaître leur nature de sagesse. Bonsoir. Et à ce moment-là, le Bouddha Amitabha, il représente la sagesse de quel facteur perturbateur?
La passion, l'attachement.
Non. Le désir attachement, oui. Le désir attachement. Voilà. Amitabha représente le désir attachement. Donc toutes les pratiques qui sont liées à Amitabha, eh bien, ce sont des pratiques qui vont purifier le désir attachement. C'est-à-dire transformer, en fait, le désir attachement en sa nature fondamentale, fondamentale de sagesse. Et donc, Amitabha, il est de couleur rouge. Et c'est aspect sagesse du désir attachement. Akshobhya, il est de couleur bleu sombre. Et c'est l'aspect sagesse de quel facteur perturbateur? Non. La colère, la haine. Voilà. Ensuite, vous avez Vairochana qui est blanc. Vairochana, blanc. Bon, vous aurez ça sur le CD, hein, si vous ne pouvez pas noter. Mais Vairochana qui est blanc, donc ça, c'est l'aspect sagesse de l'opacité mentale. Voilà. La torpeur, c'est un aspect de l'opacité mentale. Hein. Mais l'opacité mentale, ouais, cette espèce de lourdeur d'esprit, cette espèce de... Hein, le fait de ne pas avoir l'esprit clair, vif. Voilà. L'indifférence, par exemple, est une manifestation de l'opacité mentale. Voilà. Ensuite, vous avez Amoghasiddhi, qui est de couleur verte. Amoghasiddhi, et c'est l'aspect sagesse de la jalousie, comme vous disiez tout à l'heure. Et vous avez Ratnasambhava. Ratnasambhava est de couleur jaune, et c'est l'aspect sagesse de... Quel est le cinquième qui n'a pas été cité? L'orgueil. L'orgueil. Voilà.
On oublie toujours celui-là.
Comment?
On l'oublie toujours.
Oui, parce que c'est le plus subtil des facteurs perturbateurs. Et par rapport alors, à la question suivante, c'est quelle est la relation de ces cinq Bouddhas avec les cinq chakras? Quand, pour certaines pratiques dans le Vajrayana, on visualise cinq chakras principaux. Mais il faut savoir leur couleur, et par leur couleur, vous voyez en fait à quel Bouddha ils correspondent. Donc le chakra du front, et quand on parle du chakra du front, c'est bien le chakra du front, c'est pas le chakra qui est le chakra coronal, hein, au sommet de la tête. C'est le front, là. Alors il est blanc. Il est blanc. Il est blanc, et donc c'est le Bouddha Vairochana. L'aspect sagesse de l'opacité mentale. Voilà. Ça, vous faites une relation entre... Voilà. Et il représente ce qu'on appelle le corps éveillé. Le corps éveillé. Au niveau de la gorge, rouge. Il est rouge. Donc, c'est Amitabha. L'aspect sagesse du désir attachement. Et ça correspond à la parole éveillée. Ensuite, vous avez au chakra du cœur... Il est bleu, donc c'est Akshobhya, l'aspect sagesse de la haine, de la colère, et il correspond à l'esprit éveillé. L'esprit. Corps, parole, esprit. C'est pour ça que quand on se prosterne, on joint les mains au niveau du front, parce qu'on rend hommage par le corps, on rend hommage par la parole en joignant les mains au niveau de la gorge, et au niveau du chakra du cœur, pour rendre hommage par l'esprit. Corps, parole, esprit. L'esprit éveillé. Ensuite, au nombril. Alors, quand on parle du nombril, du chakra du nombril, c'est toujours à quatre doigts en dessous du nombril physique. C'est vraiment, en Chine, au Japon, le dantien, hein, le hara, voilà. Et ici, c'est le Bouddha Ratnasambhava, donc qui est jaune, et c'est l'aspect sagesse de l'orgueil. Et ça correspond aux qualités éveillées. Les qualités éveillées. Et puis, à la base de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle l'endroit secret, le chakra de l'endroit secret, le chakra est vert, donc c'est le Bouddha Amoghasiddhi, l'aspect sagesse de la jalousie, et qui correspond à l'activité éveillée. Voilà. Alors c'est pour ça que dans un temple tibétain, vous retrouvez en général ces cinq couleurs sur les murs. C'est pour rappeler en fait que, ayant tous ces cinq facteurs perturbateurs dans notre esprit, mais nous avons tous ces cinq sagesses. Si vous avez un jour beaucoup de colère, vous vous dites « Oh, j'ai beaucoup de sagesse aujourd'hui. Ouais, » C'est une autre façon d'aborder les facteurs perturbateurs, hein, de les percevoir, de les... Donc, voilà. Mais après...
C'est ça, quand vous dites « les reconnaître », hein, c'est de reconnaître qu'on a de la colère à ce moment-là?
Non, c'est reconnaître que la colère que l'on a en fait, elle est sagesse.
Elle est sagesse.
Oui. D'accord. Mais il ne faut pas se dire, elle est sagesse, donc je peux manifester ma colère sous toutes les formes. Voilà. Quoi. Non, ce n'est pas ça. Alors, qui répond à ça? Quels sont les différents bardos? Le terme bardo, c'est un mot tibétain qui veut dire état intermédiaire. Combien de bardos y a-t-il? Oui, alors ça en fait combien le tout? Il y en a 6. Vous n'étiez pas loin, oui. Non, alors attendez, il y en a 6 en tout. Il y a 3 bardos de la vie, 3 bardos de la mort. C'est 3-3. D'accord? Bien. Comment?
J'avais oublié ceux de la mort.
Ça vient, ne vous inquiétez pas. Comment Rinpoche qui répond à quelqu'un qui veut se suicider et qui va voir Rinpoche en disant je veux me suicider, et Rinpoche lui dit pourquoi êtes-vous si pressé, la mort arrive, vous savez. Ça a été sa réponse qu'il a dite une fois à quelqu'un. Bon, je pense cette personne là, oui, je crois que ça l'a aidé, ouais. Alors quels sont les 3 bardeaux de la vie?
De la gestation.
Voilà, le bardo de la gestation. Ensuite, on va changer d'état quand, à partir de la naissance. D'accord? Donc, on passe dans un autre bardo. Donc, c'est le bardo de la vie qui va de la naissance au premier bardo de la mort. Évidemment. D'accord? On verra où il se situe. Et puis, le troisième bardo de la vie, c'est lequel? Ouais, le rêve, le bardo du rêve. Le bardo du rêve. On est dans un autre état quand on rêve. Dans certains textes, il y a des écoles qui parlent du bardo de la méditation. Voilà. Mais chez nous, on parle plutôt du bardo du rêve. Bien. Ça, c'est les 3 bardos de la vie. Après, vous avez 3 bardos de la mort. Alors, premier bardo de la mort, c'est le bardo du moment de la mort. L'état du moment de la mort. Quand commence le moment de la mort et quand se termine-t-il? Quelqu'un a une idée?
Quand les sens commencent à se dissoudre.
Ouais, c'est-à-dire au signe annonciateur de la mort. Ça, c'est le premier bardo.
Le coma? Le début du coma?
Non. Vous pouvez être dans le coma et ne pas être dans le bardo de la mort. Ouais. Le bardo de la mort, le premier bardo, du moment de la mort, c'est quand l'énergie qui est présente dans les différents éléments qui constituent un individu cesse de fonctionner. Et c'est au départ l'élément terre qui va cesser de fonctionner. Et à ce moment-là, il y a des expériences au niveau de l'esprit que fait la personne qui subit ce moment de la mort. Mais il y a effectivement des expériences au niveau physique aussi. La personne, par exemple, ne peut plus bouger, ne peut plus se lever, elle ne peut plus prendre son verre d'eau. Voilà. Alors, ça peut être cette dissolution des éléments. Après l'élément terre, il y a l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Et quand l'élément air est totalement résorbé, c'est l'arrêt de la respiration. Bon. Alors, cette dissolution des éléments les uns dans les autres, ça peut se faire de façon très progressive, très lente. Et ça, un jour, si vous voulez, on pourra vraiment l'expliquer en détail, parce que quand on assiste une personne en fin de vie, eh bien, on peut noter cette résorption des éléments, les uns dans les autres. Et à ce moment-là, sachant que, en plus de l'effet physique, il y a un effet au niveau de l'esprit, on peut rassurer la personne en train de mourir. Bon. Je disais ça. Oui, voilà. Après, il y a un autre processus qui se met en place, on le verra plus loin, mais il y a un autre processus qui se met en place, c'est ce qu'on appelle les 3 chemins. Et pour nous, la mort, c'est quand le processus des 3 chemins est complété, est accompli. On peut dire à ce moment-là que la personne est vraiment décédée. La mort pour nous n'est pas l'arrêt respiratoire. L'arrêt respiratoire, c'est la dissolution de l'élément air. L'air, il n'y a plus d'énergie air, si vous voulez. Donc la personne ne peut plus respirer. Bien. Mais pour nous, il y a un autre processus qui se met en place tout de suite après.
Après.
Après, oui. Alors, jusqu'à la fin de ce processus, ça c'est ce qu'on appelle le bardo du moment de la mort. Bon. Après, il y a un autre bardo qui a de la mort qui se met en place, c'est ce qu'on appelle le bardo du dharma en soi. Le bardo du dharma en soi. C'est pendant cet espace-temps où l'esprit de la personne décédée, elle est décédée, hein, produit à la fois ses aspects sagesse et ses aspects égotiques. Donc la personne va faire des tas d'expériences à la fois de sagesse, mais aussi de ses tendances égotiques. Ce bardo peut durer 3 semaines. Et à la fin de ce bardo, il y a le bardo du devenir qui se met en place. Et ce troisième bardo de la mort, eh bien, c'est le dernier qui est du bardo de la mort. Et ce bardo du devenir, dans cet espace-là, eh bien, la personne a conscience qu'elle est décédée, et la conscience de la vie qu'elle a quittée, mais les apparences de la vie dans laquelle elle était se dissolvent petit à petit et apparaissent les apparences de la vie dans laquelle elle va reprendre naissance. Jusqu'au moment où cette conscience s'introduit dans une matrice, au moment où il y a les deux éléments masculin et féminin qui s'unissent. Et là, à ce moment-là, c'est le bardo de la gestation. Donc on commence le premier bardo de la vie. Et on tourne. Le
processus des trois chemins, c'est quoi ?
Alors on va le voir. Donc c'est bon ça ?
Ce chemin-là, apparemment, il y aurait des esprits qui voyagent.
Alors ça, dans le dharma, pas vraiment.
Ah, il n'y en aurait pas ?
Non. Il y a. Oh, alors, mais ça, je ne veux pas répondre parce que c'est d'autres questions. On continue, on détaillera tout ça. Alors maintenant, expliquer le processus des trois chemins et l'expérience de la claire lumière au moment de la mort. C'est-à-dire que quand il y a l'élément R qui s'est totalement dissous, il y a ce qu'on appelle le processus des trois chemins. Alors pour ça, il faut se rappeler qu'au moment de la conception, vous avez l'élément masculin, l'élément féminin qui s'unissent et la conscience qui s'introduit. Grosso modo. Hein. Et l'énergie qu'on a reçue de notre père au moment de notre conception, elle est localisée schématiquement dans le schéma du corps spirituel, je ne sais plus le terme, mais dans le, vous savez, on a un canal central et l'énergie reçue du père est localisée au sommet de la tête sous une forme de couleur blanche, sous un aspect de couleur blanche. L'énergie reçue de notre mère est localisée en bas du corps sous une apparence rouge. Et quand le processus des trois chemins commence, c'est toute l'énergie masculine reçue de notre père. Elle descend, cette énergie-là, elle descend du sommet de la tête et elle vient se localiser dans le chakra du cœur, au niveau du chakra du cœur. La personne qui est décédée, elle fait l'expérience à ce moment-là d'une intense luminosité blanche. Donc on appelle ce chemin le chemin blanc. Tout de suite après, il y a l'énergie féminine reçue de notre mère qui monte et qui vient rejoindre l'énergie masculine dans le chakra du cœur. Cette énergie étant féminine et elle est rouge, la personne décédée fait à ce moment-là l'expérience d'une luminosité rouge. Et puis donc il y a l'union des deux. Et l'union des deux, eh bien ça va être le troisième chemin. Et l'union des deux, on appelle ça le chemin noir. Parce que cette union, ça provoque l'expérience de claire lumière. Et si on est conscient de cette expérience de claire lumière à ce moment-là, c'est l'éveil. C'est donc l'éveil au moment de la mort. Si on n'en est pas conscience, si on n'en est pas conscient, eh bien notre conscience perd sa lucidité et elle sombre dans un aspect de sombre, noir. Et donc c'est pourquoi on appelle ça le chemin noir. C'est en fait un état d'inconscience à ce moment-là. Donc vous avez le chemin blanc, le chemin rouge, et l'union des deux, c'est le chemin noir. Cette expérience de chemin noir, ça peut durer 3 jours. Donc c'est pourquoi il serait bon, quand on meurt, de ne pas toucher le corps pendant les 3 jours qui suivent le décès. Après, on fait comme on peut. Hein. Voilà. Si on meurt chez soi en plein mois de juillet, ça va être difficile. Si on meurt à l'hôpital, ça va être difficile. Mais l'hôpital, à l'hôpital, sachez ça quand même, que quand vous expliquez que vous avez tout un concept de la mort à des médecins ou à des infirmiers, eh bien, ils laissent le corps pendant au moins 4 heures sans le toucher. Ils acceptent de ne pas toucher le corps. Voilà. Et donc, ça, vous pouvez exiger ça. Vous pouvez le signaler aux personnes.
Vous avez encore les petits...
Oui,
il y en a à l'us.
Il y en a, oui.
4 heures, c'est pas 3 jours. Hein.
Mais c'est mieux que rien. C'est vraiment mieux que rien.
Donc les familles qui caressent les morts parce que...
Il faut éviter. Ah. Voilà, tout de suite après le décès, il faut éviter. Si vous avez quelqu'un, vous accompagnez quelqu'un et que cette personne meurt au milieu de la nuit à l'hôpital, n'appelez pas l'infirmière. Elle a bien le temps de constater le décès quand l'infirmière viendra faire son tour à 5h ou 6h du matin. Laissez la personne décédée tranquille. Si vraiment vous devez, vous pensez que la personne va être touchée, parce que l'infirmière va passer, tapotez-lui le sommet de la tête après sa mort. Parce que ça va aider le principe conscient à quitter le corps par le sommet de la tête. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour la suite du voyage, pour le bardo, justement. Si vous devez prendre un corps, vous êtes à plusieurs, sur un accident de voiture par exemple, vous devez pousser le corps. Mettez-vous plusieurs au niveau de la partie supérieure du corps, au niveau des bras par exemple, et moins de personnes au niveau des jambes. Alors c'est bien, ça dépend de la corpulence de la personne, etc. Hein? Mais voilà, sachez que il vaut mieux, si vous devez toucher le corps, le toucher plutôt dans sa partie supérieure. Ça, c'est plus favorable. Voilà. Bien. Alors, ce processus des 3 chemins, il se produit à chaque fois que l'on s'endort. À chaque fois que l'on s'endort. À chaque sieste, à chaque nuit, quand on s'endort, c'est le même processus.
C'est pour ça qu'on appelle ça la petite mort.
Oui, exactement. Et par exemple, la résorption de l'élémentaire, on peut en être conscient. Parce que si on s'endort progressivement, eh bien, on sent que notre corps, on ne peut plus le bouger alors qu'on est encore conscient. Après, on n'est plus conscient des autres résorptions.
On a également la luminosité
blanche. Ouais, ouais. Et la claire lumière, elle se produit. Il faut se dire que si nous ne sommes pas conscients de la claire lumière quand on s'endort, il y a fort à parier que nous ne serons pas conscients de cette claire lumière au moment de la mort. Il n'y a pas de miracle qui va se passer. Hein. L'esprit est opaque, et il est opaque. Hein. Voilà. Alors c'est pourquoi dans le bouddhisme tibétain, il y a des pratiques de claire lumière, c'est pour être conscient à chaque fois que l'on s'endort de cette expérience-là, de façon à pouvoir la reconnaître au moment de la mort. Parce que quand on la reconnaît, quand on s'endort, ça n'est pas l'éveil. Il faut mourir, en fait, et la reconnaître au moment de la mort pour que ce soit l'éveil au moment de la mort. Mais si on s'est entraîné et qu'on l'a reconnu, eh bien, on pourra la reconnaître au moment de la mort, et là, ça sera l'éveil au moment de la mort. Voilà. Comment ?
Excusez-moi. Ça a une durée, cette expérience de claire lumière, ou est-ce que c'est fulgurant ?
Plutôt fulgurant. Plutôt fulgurant. Si vous la reconnaissez, elle dure. Et vous êtes dans la claire lumière. Si vous ne la reconnaissez pas, c'est comme un éclair. Voilà. Donc ça, c'est le principe des 3 chemins.
Excusez-moi, mais médicalement, il y a énormément de personnes
qui oui. est décédé au cours d'une opération et on les a ramenés à la vie.
Oui.
Et tous disent la même chose, j'ai lu des livres
oui.
extraordinaires.
Oui.
Ils traversent un tunnel très lumineux.
Oui.
Alors c'est le chemin phase 2.
Non, c'est une expérience qui se rapprocherait de l'expérience de clair-lumière. Mais il y a une différence quand même, qui montre que ce n'est pas vraiment l'expérience de clair-lumière. C'est que dans ces expériences qu'ils décrivent tous, ils voient une lumière devant, ils ont envie de se fondre dans cette lumière. C'est une lumière extrêmement d'amour, et ils sont attirés par cette lumière. Mais ils restent dans la dualité. Il y a eux et il y a cette lumière. L'expérience de clair-lumière, c'est vous êtes cette clair-lumière, vous êtes cette lumière. Il n'y a plus de dualité. Vous pouvez avoir une expérience de clair-lumière par la méditation. Ouais.
Ce serait quand ?
L'expérience de clair-lumière, elle naît si vraiment vous lâchez tout. Elle ne peut naître que dans une totale ouverture de l'esprit. Vous lâchez absolument tout. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur la saisie. Si vous ne saisissez pas, si vous ne saisissez pas, il y a une ouverture totale, il y a un lâcher prise, tout s'ouvre. Et là, vous êtes dans la nature de l'esprit, c'est-à-dire vous faites cette expérience de clair-lumière. Mais il n'y a pas de dualité dans cette expérience. Vous êtes lumière, vous êtes total amour, et un amour inconditionnel, sans limite, absolument sans limite. Donc les personnes qui décrivent cette lumière, oui, ça se rapproche. Mais ce n'est pas la claire lumière.
Et c'est très douloureux de revenir à
l'air. Oui, parce que... Voilà. Mais c'est comme quand vous faites en méditation cette expérience de claire lumière, c'est que vous n'avez plus qu'une envie, mais c'est de réaliser cette nature de l'esprit. Parce que c'est inimaginable, quoi. Vous ne pouvez même pas la décrire.
Est-ce qu'on ressent, on a un sentiment en même temps ?
C'est pas quelqu'un qui a un sentiment, c'est vous êtes amour.
Amour
vous êtes total amour.
D'accord. Sentiment ouais. d'amour de partout.
De partout. C'est complètement vaste, équanime. Et il y a une luminosité. Il y a une luminosité. Mais c'est très vaste.
On doit avoir une souffrance après, sans envie de retourner.
Bah, ça vous donne envie de méditer davantage.
Oui, oui, mais ça doit être frustrant, parce que des fois on n'y arrive pas. Quoi.
Ah, oui.
Donc il y a une souffrance qui se crée encore.
Une frustration, oui. Oui, mais cette expérience de clair-lumière, elle ne peut se faire que dans un total lâcher-prise. Voilà. Voilà, mais peut-être qu'un jour on pourra voir plus en détail le processus de la mort, comment s'y préparer, etc. Parce que cette dissolution des éléments les uns dans les autres, pour un bouddhiste, c'est très important de reconnaître tout ça, de s'y préparer. Il y a toute une façon de se préparer à la mort. La pire des morts pour un bouddhiste, c'est dormir, c'est mourir en dormant, quoi. C'est la pire des morts.
C'est le contraire.
Ah oui. Parce que vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de mourir. Vous vous retrouvez dans le bardeau de l'autre côté et vous ne comprenez pas ce qui se passe, quoi. C'est l'affolement, quoi. La dissolution des éléments les uns dans les autres, dans une mort brutale, accidentelle, elle se produit, mais à cette vitesse-là, quoi. Donc vous n'êtes conscient de rien. Donc c'est pas du tout une mort souhaitée non plus que de mourir brutalement par crise cardiaque ou par assassinat ou ces pauvres gens qui voilà, dans un accident de voiture, d'avion, etc. quoi.
Mais si on est déjà dans la pratique.
Là, vous pouvez peut-être un peu récupérer ce qui se passe, hein? Mais il faut être bien entraîné. À ce sujet, vous avez Lama Yeshe. Lama Yeshe qui était le fondateur de Vajrayogini, hein, le centre Gelugpa à côté de Toulouse, qui est mort en 80 et quelques. Il est mort d'un cancer, il avait 50 et quelques années. Et il décrit comment était son esprit. Parce que quand il avait des moments de lucidité, eh bien, il écrivait les expériences qu'il avait vécues au niveau de l'esprit pendant sa fin de vie, quoi. Il disait la souffrance fait que son esprit était comme un chien fou. Il utilisait cette expression là son esprit était à droite à gauche, voilà, tellement il souffrait, quoi. Il n'y avait plus possibilité de stabiliser l'esprit. Par la pratique, il arrivait à retrouver la stabilité. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que même chez un grand méditant comme lui, eh bien, ce n'était pas facile, quoi. Il fallait que, il repose son esprit, quoi. Et puis, d'un autre côté, quand on lui administrait des médicaments pour ne plus souffrir, eh bien, son esprit devenait complètement opaque, perdait sa lucidité, perdait son esprit, son aspect conscience, à cause des médicaments. Donc, c'est pourquoi, dans le processus de la mort, on dit que 3 jours avant de mourir, il faudrait arrêter les médicaments, pour que l'esprit retrouve un peu sa lucidité. Mais en même temps, si vous souffrez beaucoup...
C'est l'humilité actuellement.
Voilà. Eh oui. Donc il faut trouver un équilibre. Et on ne sait jamais si c'est vraiment dans 3 jours, etc. Hein, donc c'est quand même...
On parle d'euthanasie, tout ça, c'est d'actualité. Alors, je veux dire, quelqu'un qui souffre...
L'euthanasie, non, parce que... C'est provoquer en fait la résorption des éléments les uns dans les autres de façon totalement artificielle.
Ouais, c'est ça.
Et donc, si on choisit la date de sa mort.
On l'a choisi.
Mais oui, parce que dans les hôpitaux, les gens ont une maladie, ont un cancer, sont prêts, ils sont entre la vie et la mort. Il y a des médecins qui disent que souvent, ils partent après la visite d'une personne ou à une date d'anniversaire.
Oui. C'est pas conscient. Vous vous donnez des objectifs, la personne se donne un objectif, c'est par exemple si son enfant qui est aux États-Unis, elle va attendre le retour, l'arrivée de son enfant. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui décèdent, vous êtes simplement allé boire un café, et pendant votre absence, pof, la personne décède.
C'est-à-dire
qu'il y a...
C'est
pas volontaire, c'est quelque chose qui se produit dans l'esprit, ça lâche à un moment donné parce qu'il y a un élément qui lâche, voilà. Et vous avez des personnes qui tiennent, alors ça c'est volontaire par contre, qui tiennent jusqu'à telle échéance, quoi, et un jour ou 2 jours après, elle laisse tout partir après cette échéance, si vous voulez, elle lâche tout, quoi. Et là, elle s'en va, quoi. Ouais.
Je peux aussi dans une expérience que j'ai eue d'un proche. Autrefois, on appelait l'agonie, ça correspond peut-être à la dissolution des éléments. Et il y a certaines personnes du corps médical, des gens, de M. Dubourg, qui ils reconnaissent même plus ce processus d'agonie, on ne le respecte pas, ils veulent l'arrêter parce que oh là là, il ne faut pas qu'il ait mal.
Ouais,
c'est extraordinaire, ça aussi. Moi, oui. J'ai fait un papier pour dire si j'ai subi une agonie très longue, laissez faire. Parce que c'est choquant,
c'est ça. Oui, parce que ça, il n'y a plus compréhension du processus de la mort. Il y a juste le confort, l'accent qui est mis sur le confort. Voilà. Mais après, effectivement, dans les kits de fin de vie, il y a des consignes qu'on laisse au corps médical, qu'on laisse aux pompes funèbres, qu'on laisse à sa famille, etc. Et je trouve que le personnel médical dans un hôpital,
ils respectent,
ils sont même très contents quand on leur explique notre point de vue, parce que au moins ils savent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça les rassure plutôt. La semaine dernière, on m'a fait intervenir, maintenant comme chaque année, à l'institut de formation pour infirmiers, pour justement ces questions-là, parce que de plus en plus, il y a lors de leur deuxième année, tous les représentants des différentes traditions spirituelles viennent exposer ce qu'il faut faire, ne pas faire, leur conception de la mort, de la fin de vie, etc. Et ça, je trouve ça très bien. Mais sachez qu'il faut laisser des consignes. Laisser des consignes. Vous savez qu'il y a un projet de loi aujourd'hui, bon là on dévie un peu, mais il y a un projet de loi, je ne sais pas s'il passera. Si vous n'avez pas laissé de consignes écrites par rapport au don d'organes, c'est-à-dire que vous ne voulez pas un prélèvement d'organes sur votre corps, si vous n'avez pas écrit ça noir sur blanc, on prélève les organes sur vous et on informe après votre famille qu'on a prélevé tel ou tel organe. Ça, c'est un projet de loi en France qui va dans ce sens-là. Jusqu'à maintenant, on demande aux familles, on a besoin d'un foie, on demande à la famille si la personne qui est décédée, vous êtes d'accord pour que l'on prélève le foie. Maintenant, il n'y aura plus l'accord de la famille. On prélèvera le foie et on signalera à la famille l'organe qu'on a prélevé.
mais attendez, il y a une question d'âge aussi, on va pas parler.
Bah, évidemment. Bah, ils savent ce qu'ils font, les médecins. Là, ils vont faire en fonction de ça. Mais oui, mais ils prélèveront, oui, mais bon, c'est pas forcément sur nous, mais ils prélèveront sans qu'il y ait l'accord de la famille. Pour un jeune qui vient de décéder.
Ah, sur des jeunes.
Oui, par exemple.
Ça a des conséquences, justement, ce qu'on parlait, ça doit être une étrange, justement.
Alors, pour le don d'organes dans le bouddhisme, comme on maintient, en fait, le corps artificiellement dans un certain état de vie, entre guillemets, ça perturbe le fonctionnement des trois chemins. Oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, tous les Rinpoche vous diront, si vous avez autorisé à donner tel ou tel organe, c'est un acte de bodhisattva. Donc c'est supérieur, cet acte de compassion est supérieur à votre propre confort spirituel.
Moi, je voulais donner mon sang, on m'a dit non, pas après 70 ans.
Ah.
On est plus loin, rien après 70 ans. Même pas pour les prélèvements d'organes.
Bon. Quelle est la durée maximale du bardo de la mort? Hein, c'est trois bardos de la mort. Quelle est la durée maximale? 49 jours. 49 jours. Et en général, ça se passe, c'est tout accompli au bout de 3 semaines. Ouais.
Comment est-ce qu'on sait ça? Comment on peut le savoir? Parce qu'enfin, on ne voit pas la façon dont ça recommence, quoi.
Sans doute des grands méditants qui ont accès à ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a une question de géographie qui joue ou pas?
Pas du tout. Non. Non. Alors, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de pratiques quand la personne décède, qu'on en fait au bout de 3 semaines et qu'on en fait aussi au bout de 49 jours. On en fait tous les jours. Mais on en fait jusqu'à 49 jours pour être sûr que tout ce processus se soit bien accompli. Quoi.
Voilà. Même si le corps a été dissous, ça n'a pas d'importance.
Non. Le corps, ce qu'on fait du corps, n'a aucune importance. Une fois que la conscience a quitté le corps, il n'y a aucune importance. Vous pouvez brûler le corps, vous pouvez l'enterrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de culte du corps. Il n'y a pas le culte des morts, il y a le respect des anciens, ça oui, vous pouvez avoir un petit autel avec des proches qui sont décédés, avec une photo et leur rendre hommage, voilà. Mais le culte de fleurir une tombe, par exemple, dans le bouddhisme, ça n'existe absolument pas, quoi. Ça n'existe pas.
Je sais pas si c'est le troisième jour qu'on peut enterrer une personne.
Enfin, normalement, oui.
Ça voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure,
toucher. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors maintenant, il y a des pratiques. Bon, ben là, mais il y a des pratiques d'éjection du principe conscient qu'un lama peut faire quand la personne vient de décéder. Mais il faut être vraiment à son chevet au moment du décès. Et quand l'éjection de conscience est faite, là, on peut enterrer le corps dans la demi-journée qui suit. Quoi. Voilà.
Oui, je disais, je ne sais pas si c'est une expérience que j'ai eue, ça fait 3 ans que j'ai perdu mon père, et j'étais tout le temps à son chevet, à l'hôpital et tout, et 3 semaines après, dans un rêve, je l'ai vu apparaître au sommet avec une grande auréole blanche derrière, ça veut dire quoi?
Alors... Soit votre...
Est-ce que le chemin, il a accompli le chemin? Est-ce que...
Le processus, il se fait de toute façon, normalement, qu'on rêve ou pas de la personne, les trois chemins, tout ça, le processus s'accomplit normalement. Après,
ça peut être qu'on n'y arrive pas,
Non. Après, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire... votre esprit pensait tellement fort à votre père qu'il l'a reproduit, il a reproduit cette image de votre père au cours du rêve. Maintenant, il se peut aussi, si votre père était quelqu'un d'avancé spirituellement, il a trouvé peut-être ce moyen-là pour entrer en contact avec vous pour vous rassurer. Ça, c'est pas impossible non plus. Il y a des Rinpoche qui interviennent comme ça dans les rêves de certains disciples, etc. Donc, on peut envisager ça aussi. Alors, qui est l'auteur du Dakpo Tharyen et à quelle époque a-t-il vécu? Alors, Dakpo Tharyen, c'est la Bible des Kagyupa, on va dire ça comme ça. Dans notre lignée, il y a un texte qu'on traduit par le précieux ornement de la libération. En tibétain, Dakpo Tharyen. Et c'est vraiment un texte sur lequel eh bien, on base encore notre cheminement spirituel. Et qui décrit toute la voie. Comment on commence la voie, comment on la poursuit, comment on la termine, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a terminée. C'est-à-dire l'activité éveillée est même décrite dans ce texte. C'est traduit en français. Et qui a écrit ça? Gampopa. Gampopa était le principal disciple de Milarepa. Voilà. Et Gampopa a vécu à quel siècle? Et, mais ça, il est mort en 1153. Et il est né en 1079. Donc, 11e, 12e, début 12e siècle. Voilà. 11e, 12e siècle. Ce texte de Gampopa est tellement important que quand Tsongkhapa, c'est 15e siècle, hein, je crois, Tsongkhapa, au 15e siècle, il a réformé la lignée Kadampa à laquelle il a donné le nom de Gelugpa, le Dalai Lama, par exemple, de la lignée Gelugpa aujourd'hui, hein, Tsongkhapa a créé un lamrim, une voie progressive, en deux, vraiment plus détaillé encore. Mais pour décrire cette voie progressive, il s'est appuyé sur le texte de Gampopa. Donc, ce texte de Gampopa, le précieux ornement de la libération, c'est ce qu'on appelle en tibétain un lamrim, c'est-à-dire une voie progressive. Comment suivre la voie de façon progressive. Ça, c'est un texte pour nous qui est...
Ça veut dire précieux ornement
le titre, précieux ornement de la libération. Ouais. C'est vraiment un enseignement sur comment suivre la voie. Et c'était la 40e question ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Une 41e.
Je rebondis ce qu'elle disait sur son papa.
Ouais.
Tout à l'heure, on parlait d'esprit, comme quoi ça n'existait pas. Alors que s'il y avait un côté spirituel qui revient, qui était revenu, supposons qu'il y avait quelque chose de fort en lui, il pouvait revenir éventuellement. Et les esprits, c'est pareil, c'est une force aussi qui est là.
Non, ce qu'on appelle les esprits dans le bouddhisme, et surtout dans le bouddhisme tibétain, ce processus il se met en place, et donc il est accompli au bout de 49 jours, la conscience est réintroduite dans une matrice et c'est reparti quoi. Alors ce qu'on appelle esprit, les maisons hantées, les entités, c'est ce qu'on appelle en tibétain les la.
Là.
Et là vraiment typiquement comment la traduction c'est résidus psychiques. Alors, ça veut dire que quand une personne décède, si elle avait un très fort attachement pour ses proches, ou un très fort attachement pour un lieu, cet attachement arrive à se matérialiser. C'est une énergie qui arrive encore à se matérialiser. Et c'est ce qu'on peut ressentir. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'esprit de la personne décédée. Les Tibétains...
Les énergies.
Ouais. Ouais. Notamment les énergies d'attachement, voire d'aversion.
La malveillance, il y en a aussi à part.
Aussi, bien sûr. Quand ces énergies-là sont extrêmement puissantes, ça laisse des traces, quoi. C'est comme ça qu'on peut ressentir, si vous allez à Auschwitz, tel malaise. Ça ne veut pas dire que les âmes, entre guillemets, des personnes qui ont vécu ici et sont mortes ici, sont toujours là à errer. Mais ce qui a été vécu, c'est tellement puissant... Eh bien que c'est encore palpable, quoi. Voilà.
Pourquoi certaines personnes le sentent et d'autres le sentent pas?
je pense, une question de sensibilité de la personne. Et par exemple, Lama Tempa Gyamso, cet ermite qui vit en France, quand il est allé, une fois je l'ai emmené au Struthof, en Alsace, vous savez, ce camp de concentration qui était en Alsace, je trouve ça très intéressant. Enfin bref, bon, moi j'ai pas vécu la guerre, alors après, quand on a vécu la guerre, ça c'est mort. Mais Lama Tempa, quand il est arrivé là, il a dit il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Il ne ressentait absolument plus rien. Alors je lui dis, mais Lama, pourquoi quand on rentre, on est tout comme ça, tout guilleré, quand on ressort, on tire tous une tête? Alors il me dit, mais parce que d'abord, vous savez ce qui s'est passé. Et on vous explique ce qui s'est passé. Et vous voyez comment ça s'est passé. Parce qu'il y a encore le four, il y a encore où on les pendait, etc., etc. Ils n'ont pas tout détruit. Il y a des baraquements qui restent, etc. Donc on imagine, voilà. Et là, on ressort avec cette tête, quoi. Et ce qui est logique, enfin, ce qui est compréhensible, hein. Voilà. Mais pour lui, non, il n'y avait plus de traces, enfin.
De traces.
Ouais.
Même si vous, au musée de la guerre, vous avez vu le Cambodge, vous l'avez vu?
Non, je ne suis pas allé au Cambodge. Ça, c'est plus récent encore.
Moi, j'ai pu prendre des photos, mais c'était l'horreur. Et quand je suis sortie, j'ai dit, c'est bizarre. Et dans l'autobus, je me suis mise à vomir.
Ouais, ouais.
C'était après la réaction.
Ouais, ouais.
Sur le moment, j'étais tellement prise dans mes photos, mais c'était ignoble ce que ces gens font.
Ouais, ouais.
C'était pas les fous, mais vous savez, c'était pas.
Ouais.
J'ai pas une petite question, peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est bien d'entretenir tout ça?
Moi, je sais pas sur le plan du dharma, je sais pas du tout ce qui est. Moi, je crois qu'il faut. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce genre de choses. Quoi. Et d'aller sur ces lieux-là, vraiment, ça nous ramène à cette horreur. Et se dire, mais comment, en tant qu'humain, on a pu agir de cette façon-là? Et surtout, on n'est pas à l'abri, nous, d'agir de la même façon. Il faut quand même. Je crois que la chose qui m'a le plus frappé au Struthof, et j'y suis allé plusieurs fois, c'est qu'on vous explique que le commandant du camp, qui, lorsqu'il ordonnait une pendaison, faisait en sorte que la personne qu'on pendait, quand on le pendait vraiment, ses pieds touchent légèrement le sol. C'était calculé, d'après la taille de la personne. Parce que ça retardait la mort de quelques minutes. Donc il devait jouir de le voir se tortiller au bout de la corde. Donc c'est le comble de l'horreur. Enfin, bien. Cet homme-là, sa maison était à 200 mètres du camp. Quand il sortait du camp, il avait ses enfants avec qui il jouait, sa femme, et il les adorait, il prenait ses enfants sur les genoux, les cajolait, etc. Et il venait d'assister à ça.
C'était de grands musiciens.
Et de grands musiciens, et oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas de. Comment dire? Cette monstruosité, on a tous la nature de Bouddha, mais on a tous l'ignorance. Et cette ignorance, ça peut prendre toutes les formes. Quand on m'avait demandé un jour d'intervenir à la prison de Strasbourg, j'avais 30 mecs qui avaient tué quelqu'un en face de moi. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y en a pas un qui avait une tête d'assassin. Pas un.
Mais il y a différentes sortes de crimes. Par accident, on peut tuer
quelqu'un. Non, c'était vraiment pas par accident. Il n'y en a qu'un sur les 30 qui m'a dit, quoi. Moi j'ai tué ma femme. De toute façon, elle a eu ce qu'elle méritait. C'était une vraie, je ne vous dis pas le mot. Et il l'a passé par la fenêtre. Et tous, c'était. Voilà. Mais je veux dire que ce qu'ils avaient fait, je me suis rendu compte que moi, je pourrais le faire.
C'est l'emprise de
tout le monde. Tout le monde.
De la manipulation.
Mais oui.
Dans certaines circonstances.
Il y en a certains qui m'ont dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme un trou noir. Et personne n'est à l'abri de ça.
Bah, au Cambodge, on t'a manipulé. Hein. Enfin, les Khmer, on a manipulé les Khmer.
Et les enfants, les
Cambodgiens. Enfin,
ouais.
On a un voile rouge quand on veut tuer.
Oui. Donc, le fait. Parce que, après, vous savez, Il y en a qui nient hein, que ça a existé, etc. Moi, je trouve, enfin, ça, c'est vraiment un avis complètement personnel, mais que non, qu'on garde ça et que de temps en temps, on se rappelle, quoi.
Parce que ça affecte quand même quand on
comment
visite.
Comment
dire ça,
non. De
que ça n'a pas existé.
Oui, mais il y en a qui le disent. Oui, ben oui, mais ça, voilà. Oui. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, comment est-ce qu'on en parlera? Je n'en sais rien.
Mais tous les monstres nous disent que c'était le temps de la guerre. J'étais dans l'armée et je suivais les ordres. Ça, c'est la grande.
Mais il peut y avoir d'autres guerres, il peut y avoir d'autres guerres.
Et on recommencera.
Ça, c'est...
Allez, il y en a partout, les guerres.
Mais oui, oui, c'est plus chez nous, c'est ailleurs. Mais la guerre, c'est quoi? C'est les manifestations de l'ignorance fondamentale.
Donc, comme les attentats qu'on a eus.
Mais bien sûr.
Tu vois le labyrinthe du silence.
Ah, je ne connais pas ça.
Le procès de Bauer, un monstre nazi, qui n'avait aucun moment, parce que c'était la guerre.
Ouais.
Le docteur Mengele qui a dû se rappeler dans la nature, la mer, qui a rien sur les montagnes.
Comment?
Une question. Est-ce que, on a parlé de la mort tout à l'heure, et garder un objet du mort ou un cheveu ou. Justement,
les Tibétains sont pas très.
Un enfant qui naît le cordon ombilical, la danse, la danseuse, ouais, non, c'est pas bon. Voilà quoi, logiquement, ouais, on n'aurait pas, on devrait laisser.
Tout passe.
Tout passe. Voilà.
Tout change, tout se modifie, tout. Ouais. Bon, après, évidemment, sentimentalement.
On garde des choses.
On garde des choses, mais. Enfin,
vraiment, c'est un
cheveu. Ouais, ouais, ouais. Il y a toute la charge affective qu'on met derrière ça, ouais. Enfin, sur cet objet, entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez envie d'étudier l'année prochaine? Mais répondez la même chose que Nancy, parce que si chaque tuning dit quelque chose de nouveau, de différent, ça va me poser des problèmes.
Qu'est-ce qu'ils ont choisi là-bas? Nancy.
Comment? Oui, mais les bardos, ça c'est une soirée quoi. C'est pas.
Oh oui, pas toute une année. Hein.
Ah bah non. Il y a pas à dire toute une année. Comment? Bon, Nancy, ils ont proposé par exemple le Dakotargen justement de Kampopa. Mais ça, ça va être long. Hein. Ça va être long. Mais c'est surtout voir comment on peut s'appuyer sur un texte qui est du 11e siècle. Donc on va pas le décortiquer de façon littérale. Hein. Mais ça donne des éléments quand même, comment suivre la voie. Et à partir de cette base-là, comment appliquer cette pratique de la voie dans notre vie quotidienne aujourd'hui au 21e siècle. Ça vous plairait ça?
Ah ouais, c'est pas mal.
Voilà, transposer un texte qui sert encore de référence dans notre lignée, mais comment le vivre, le mettre en pratique alors qu'on est au 21e siècle, en Occident, avec les conditions de vie aujourd'hui qui sont les nôtres, quoi. Donc, bon, ça peut être bien. Ben voilà, j'ai l'été pour m'y préparer.
Fin juin, le thème de la venue de renseignement de.
Alors, ça sera, je pense, parce qu'il ne m'a pas répondu. Hein. Mais s'il ne répond pas, c'est que c'est oui, en général. C'est comment se libérer des quatre formes d'attachement. Alors, autre chose, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que je ne peux pas vous le dire pour le moment, mais libérez-vous le premier week-end de septembre, le week-end du 6-7 septembre. Il faut qu'on repousse absolument l'AG, quoi. Hein? Vous savez pourquoi? Hein? Non, c'est, ça n'a rien à voir avec Ringo Rinpoche, mais
il vient à Paris.
Il vient à Paris.
Oui. Tout.
Et pourquoi? Alors pourquoi il vient à Paris? Pourquoi vient-il à Paris, Ringo Rinpoche, le 6 et 7
Il faut se libérer pour aller à Luce.
Non, pour aller à Paris.
À Paris. Ah bon.
Il y aura une initiation, il y aura un enseignement, mais ça sera pas par Rinpoche, Rinpoche, ça sera vraiment par quelqu'un d'autre. Bon, allez, je vous le dis, mais voilà, n'ébrutez pas, c'est le karmapa. Le karmapa. Voilà, mais n'en parlez quand même pas pour le moment. Pourquoi ? Parce que si ça se sait et qu'on commence à le diffuser, notamment dans la presse, l'Inde refusera de donner le visa de sortie du karmapa. Ouais. Alors voilà. Ah, ça, je sais pas. Alors, mais du tout, il faut. Ça va être des milliers de personnes. Mais non. Alors, d'abord, une, je n'en sais pas plus que ça. Et deuxièmement, quand le karmapa, comme à Berlin l'année dernière à cette époque, c'était des milliers de personnes. Donc, ça sera à Bercy ou je sais pas où, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Mais normalement, le karmapa sera là. Donc, c'est pour ça que Rinpoche Rinpoche sera évidemment à Paris, mais ça sera la première fois qu'il viendra en France, quoi.
On peut avoir de l'intérêt et de l'émotion quand il y a milliers de personnes.
Ouais, 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 ouais. C'est
pas spectacle.
Non, non.
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 C'est
non,
comme
non.
Quand il y avait à Bercy quand on a eu
Dalai Lama.
Avec le Dalai Lama.
Ouais.
Ça n'avait rien d'un.
Non. Non. Non, 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 non. On peut...
C'était recueillement. Voilà.
Enfin, voilà. Donc, n'ébrutez quand même pas l'histoire tant que c'est pas officiel et qu'on n'a pas. On peut pas rendre. Tant qu'on ne peut pas rendre vraiment public cette info. Hein. Mais voilà, libérez-vous ce week-end-là. Si vous êtes en vacances et que vous rentrez le 7, rentrez le 5, quoi. Mais ça, c'est.
Mais le 2 et le 3.
Les meules lames, les meules lames, non? Ben voilà. Ça c'est la. Je n'en sais absolument rien de l'organisation. C'est vraiment prématuré de poser des questions sur l'organisation. On m'a juste téléphoné hier. Anila Deki m'a juste téléphoné pour me dire ça. J'en saurai peut-être plus à la fin du mois avec Rinpoche Rinpoche, mais quant à l'organisation, je sais qu'ils préparent ça, mais pour le moment, c'est vraiment prématuré de se poser ce genre de questions. Mais si ça se trouve, dans un mois, ça sera rendu public, vous saurez où vous procurer les billets, etc. Hein, ça, on attend que le karmapa ait son visa, à la fois de sortie, son autorisation de sortie de l'Inde, et son visa pour la France. Voilà. Mais c'est, je trouve, une bonne, vraiment une super nouvelle, parce que on n'avait pas pu le voir en Inde, et ben voilà, c'est lui qui vient maintenant. Voilà. On fait la dédicace et puis on passe à la petite fête annuelle. Avant de passer à la petite fête annuelle, moi je voudrais vraiment vous remercier pour le fait d'être là, mais je voudrais remercier Jacqueline qui chaque fois me fait à manger avant le chilling, et ça fait 25 ans, donc ça dure à peu près, hein, à peu près. Donc voilà, Eliane qui depuis des années vient me chercher au RER, même si je suis en retard, et eh bien elle attend. Laurent qui met à disposition ce local et qui tous les mercredis eh bien est là pour assurer la méditation et puis ce qu'il a à vous dire aussi. Voilà, et puis j'oublie sans doute beaucoup de personnes, notamment Yves, chez qui je dors depuis quoi, 2 ans au moins chez vous, avec Caroline. Donc voilà.
Non, pas de Caroline.
Je remercie Caroline aussi. Ça, je suis sûr que je vais lui dire ce soir en arrivant. Ben voilà. Et puis, ben merci de votre accueil à chaque fois.
Merci.
Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.